Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. Nous allons parler aujourd'hui du protestantisme à Chartres au XVIe siècle. Les Chartrains savent sans doute que le 27 février 1594, dans la cathédrale de Chartres, Henri, roi de Navarre, va devenir roi de France sous le nom d'Henri IV. Ce n'est pas encore la fin de cette période de troubles, des 8 guerres de religion qui ont secoué aussi un peu le pays chartrain. Pour parler du protestantisme à Chartres, j'ai invité Nicolas Balsamo. Bienvenue dans notre émission, cher Nicolas Balsamo. Vous avez déjà eu la grande gentillesse de nous parler ici même de la vie de Jean Bouvard, bourgeois chartrain du XVIe siècle. C'est un livre que vous avez publié. Vous racontez la vie d'un sergent du bailli de Chartres.
Voilà, et un sergent qui justement va être le témoin de ce dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir de la montée et puis de l'échec final, pour dévoiler tout de suite la fin, du protestantisme à Chartres.
Pas un échec complet, puisqu'on a une communauté de fidèles protestants aussi en pays chartrain. Mais vous connaissez bien ce sujet, effectivement, parce que vous avez rédigé un mémoire de maîtrise.
Voilà.
Justement, que vous avez nommé avec ce très beau titre, « À l'assaut de la citadelle sacrée, Chartres et le protestantisme ». Donc nous allons plonger dans le XVIe siècle avec vous. Et je crois que vous allez nous proposer de nous parler d'abord un peu du panorama de la vie chartraine, de la vie religieuse, pour nous plonger un peu d'abord dans le contexte général.
Oui, il faut dire quelque chose de Chartres d'abord. Chartres qui, à l'époque comme aujourd'hui, est la capitale le chef-lieu, si l'on veut, du diocèse, un très très grand diocèse, puisque c'est l'un des plus étendus de France, avec près de 900 paroisses. Orléans, à l'époque, c'est pas plus de 250 paroisses. C'est vraiment, Chartres, c'est un siège très très important. Du coup, c'est un siège aussi convoité. Mais la vie religieuse à cette époque-là est quand même très très différente selon qu'elle prenne place à la campagne ou dans la ville. La campagne, ce sont donc ces 900 paroisses, tandis que la ville de Chartres en compte 11 à l'époque. 11 paroisses où la vie religieuse est beaucoup plus dense qu'à la campagne. Et justement, lorsque nous avions parlé il y a quelques mois de ce bourgeois chartrain, il en est un témoin, il nous raconte constamment les grandes cérémonies de la vie religieuse, les processions solennelles, les prédications, des choses qu'on trouvera plus rarement à la campagne, voire pas du tout. À Chartres, au contraire, il y a vraiment des prédicateurs de talent qui prêchent très régulièrement, soit ce sont des moines du couvent des dominicains, soit ce sont des prédicateurs du chapitre, cathédrale, autrement dit des chanoines, qui vraiment s'occupent d'organiser cette vie religieuse qui, contrairement à ce qui a pu être dit parfois par les historiens d'il y a environ un siècle, n'était pas vraiment en décadence. La réforme, ce n'est pas seulement la réponse à une église qui allait à volo. Non, tout est un peu plus compliqué. Et en réalité, les choses ne vont pas plus mal alors qu'il y a un siècle ou deux. Ce serait même plutôt le contraire.
C'est vrai que quand on lit le livre sur le sergent, tenu par le sergent Bouvard, on n'a pas l'impression qu'il y a des problèmes sur ce côté-là. Il décrit les processions qu'il suit avec beaucoup d'enthousiasme et qui parcourent toute la ville. Effectivement, la vie religieuse semble très intense.
Oui, du moins pour ceux qui se contentent de ce type de vie religieuse. Car il y a effectivement une petite minorité de gens qui ne se satisfont plus à ce moment-là, ont l'impression que leurs attentes spirituelles ne sont pas comblés par justement les formes traditionnelles de piété que leur propose l'Église catholique. Et ces gens-là vont, une partie d'entre eux au moins, se tourner vers la réforme. Mais en fait, c'est une toute petite minorité. Et pour la grande majorité, dont notre sergent est un bon représentant, les cadres traditionnels, qui sont des cadres souvent spectaculaires, collectifs, de la vie religieuse héritée du Moyen-Âge, leur sont encore complètement suffisants.
Oui, alors parlons peut-être de l'évêque qui s'occupait de la cathédrale au tout début du XVIe siècle.
Oui, de l'évêque ou plutôt de l'absence d'évêque.
Oui.
En 1507 meurt René Dillier, le rejeton d'une vieille famille chartraine, laquelle famille occupait le siège de Chartres depuis plus de 60 ans. Il meurt et à ce moment-là, Les évêques sont en principe élus par le chapitre, mais l'élection qui a lieu est un peu brusquée par le roi Louis XII, qui, pour des raisons de purement politiques, il a besoin d'appui pour ses affaires, ses conquêtes en Italie, fait nommer quelqu'un qui n'est pas français, à l'époque cela ne choque pas du tout, mais quelqu'un qui a déjà d'autres évêchés, qui va cumuler, comme on dit à l'époque, Erard de Lamarque, qui, du coup, ne entièrement accaparé par sa carrière politique, ne résidera pas à Chartres et ne s'occupera pas lui-même du diocèse. Mais il ne faut pas du tout en conclure que Chartres était laissé à l'abandon. Aujourd'hui, si Chartres n'avait pas d'évêque pendant 20 ans, et c'est ce qui se passe au début du XVIe siècle, aujourd'hui ça poserait peut-être de sérieux problèmes. À l'époque, il n'en était pas ainsi, car il y avait pour suppléer l'évêque, d'une part, il y avait ce qu'on appelait un vicaire général, qui faisait en gros le travail à sa place, si l'on veut, et d'autre part, à Chartres, il y avait un chapitre, autrement dit, les chanoines, qui étaient à Chartres très nombreux, ils étaient 72. C'était un corps qui avait d'immenses pouvoirs suite à une longue histoire assez complexe. Disons qu'ils avaient des pouvoirs qui étaient quasiment équivalents à ceux de l'évêque. Un corps très fier de ses prérogatives, avec beaucoup de gens compétents. La plupart étaient passés par l'université. Et par conséquent, c'est lui qui, à Chartres, est vraiment le grand ordonnateur de la vie religieuse. Et du coup, on a une situation qui peut paraître un peu curieuse à première vue, d'une ville qui va vivre quasiment sans évêque, de 1507 à 1525, pendant donc 18 ans, et qui pourtant n'est pas du tout une ville où la vie religieuse est laissée à l'abandon.
Parce que la vie religieuse est organisée à ce moment-là par le chapitre, et nous savons que Erard de Lamarque, et certes il était absent de Chartres, mais il s'occupait des problèmes religieux très importants. Il va participer en tant qu'évêque de Chartres déjà à un synode de l'Église de France, convoqué à Lyon par Louis XII, et il va participer à la diète de Worms en 1521, qui va mettre Luther
au banc de l'Empire.
Voilà. Donc, Erard de Lamarque, qui, selon vous, est donc trop absent pour s'occuper un peu de son diocèse, va être remplacé ultérieurement par un évêque très important que vous nous présenterez dans quelques instants. Donc, Louis Guillard, qui était auparavant évêque de Tournai.
Il était évêque de Tournai. Tournai a été occupé par les armées de l'empereur Charles Quint. Et du coup, Erard de Lamarque et Louis Guillard vont faire quelque chose d'un peu curieux à nos yeux. Ils vont permuter leur diocèse. En plus, Louis Guillard va être obligé de verser une somme en compensation parce que Tournai rapporte plus d'argent que Chartres. Ils vont permuter leur diocèse qui, à Chartres, ne va pas être très bien perçu. Mais à l'inverse d'Erard de Lamarque, Louis Guillard, lui, au cours d'un très long épiscopat, il va être évêque quasiment 20 ans, va se montrer un évêque exceptionnellement actif.
Après notre petite pause musicale consacrée à la musique d'orgue du XVIe siècle, nous allons parler justement de cet évêque. Nous voilà à nouveau dans le studio de Radio Grand Ciel, après cette belle pièce d'orgue, avec Nicolas Balsamo qui était en train de nous parler de l'évêque de Chartres, Erard de Lamarque, qui va être remplacé en 1525 par son successeur Louis Guillard.
Louis Guillard, aussi issu d'une famille, d'une importante famille parlementaire, qui va, à la différence de son prédécesseur, être quelqu'un de résident. Il va passer tout son épiscopat à Chartres, il n'en bouge que très peu, et quelqu'un d'extrêmement actif, puisqu'il va éditer plusieurs statuts synodaux, autrement dit, si l'on veut, des directives de politique générale, de réforme du diocèse, qui va aussi s'appliquer à le visiter. C'est-à-dire qu'il va aller en personne dans des dizaines de paroisses du plat pays pour s'enquérir de la manière dont les choses se passent, savoir si le curé fait bien son travail de curé, si les paroissiens sont assidus, s'ils communient à Pâques, etc. C'est donc un évêque véritablement réformateur, très attaché à faire son métier d'évêque, et en même temps un évêque qui n'a aucune sympathie pour le protestantisme. En effet, c'est à partir du milieu des années 1520 que les premiers signes de la présence de réformés à Chartres se font jour. On ne sait à peu près rien de ce qui se passe avant 1525. Les choses débutent quasiment au même moment où l'évêque arrive, et lui, qui a déjà par contre eu affaire à des protestants alors qu'il était évêque de Tournai auparavant, va faire preuve d'une détermination sans faille, puisque pour lui la réponse à la réforme est assez simple, il faut réprimer. C'est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme, comme une bonne partie de toute façon de la hérarchie de cette époque. Pour lui, l'hérésie est une chose très dangereuse, il faut la réprimer, et il va s'y appliquer sans faille, sans cruauté excessive, si l'on veut, puisque la répression du protestantisme à Chartres n'est ni plus ni moins violente que dans l'ensemble de la France. Il va tout de même y avoir 3 bûchers en 1553. Effectivement, pourquoi nous en parlons, c'est aussi parce que malheureusement, comme il arrive souvent pour ce genre de phénomène, nous ne connaissons les premiers pas de la réforme à Chartres que par la répression dont ont fait l'objet ses adeptes.
Donc il y a l'influence de Calvin qui va se répandre à partir d'Orléans, et on sait qu'il y a un certain Clément Marot qui va être prisonnier en 1526 déjà.
Voilà, le poète Clément Marot, qui au cours d'un... En fait, il va être transféré, il est emprisonné à Paris, mais il est transféré à Chartres. En réalité, l'affaire n'est pas très claire, mais il semble que c'était un moyen de le faire... Il avait des protections assez haut placées, c'était un moyen de le faire, de se faire oublier, puis ensuite de le libérer rapidement. Effectivement, les premiers protestants sont plutôt, d'ailleurs, semble-t-il, tout de même d'obédience luthérienne, et ensuite ils seront remplacés à partir des années 1540 par des réformés qui sont plutôt calvinistes, comme dans l'ensemble de la France. Nous les connaissons très mal, nous avons quelques traces de procès, en particulier à Blois, car c'est de Blois que le protestantisme arrive à Chartres. Quelques procès, quelques actes d'iconoclasme au début des années 1550, par exemple, il y a une statue de la Vierge qui est brisée. On sait que le culte marial est en général la cible des attaques protestantes. Mais en tout cas, une communauté que nous ne commençons à connaître un peu qu'à partir des années 1550. Jusque-là, c'est vraiment, il y a quelques martyrs isolés, mais difficile d'en dire plus. À partir des années 1550, tout va commencer à changer, notamment parce que des gens réellement importants adhèrent à la réforme. Et en premier lieu, deux magistrats chartrains, les frères Christophe et Jean de Héroard, qui sont respectivement lieutenant général et particulier du roi à Chartres. Autrement dit, c'est le préfet et le maire presque. Vraiment des personnages importants qui vont à leur suite faire basculer une bonne partie des magistrats chartrains dans la réforme. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui change vraiment les données, puisque nous n'avons plus quelques individus isolés, mais peu à peu se met en place le noyau d'un futur petit parti protestant.
Et l'hôtel Montesquieu à Chartres, bien connu, porte le nom d'un autre protestant de grande importance.
Aussi.
Alors, le protestantisme va être bien implanté dans les années 50. On sait que l'église réformée à Chartres va être présente au premier synode secret qui se tient en 59. Déjà à Paris, et puis donc il y a une communauté bien installée. Alors, comment va réagir donc l'évêque Louis Guillard? Son neveu qui évidemment va être confronté au protestantisme qui va s'installer avec de plus en plus d'autorité.
Louis Guillard, lui, effectivement, il a continué à faire ce qu'il faisait déjà dans les années 1520, puisqu'il est évêque de Chartres jusqu'en 1553 en théorie, date à laquelle il résigne, comme on dit, son évêché en faveur de son neveu, mais dans les faits, il va rester évêque de Chartres jusqu'encore 2-3 ans. Il va continuer à faire ce qu'il faisait déjà, c'est-à-dire réprimer les protestants qui font trop parler d'eux, et continuer à mener une réforme du diocèse pour couper l'herbe sous le pied des critiques protestantes. Son neveu, lui, qui fait son entrée à Chartres en 1558, Charles Guillard, lui, est un personnage plus complexe, puisque il va faire partie de ces hommes, et notamment de ces quelques prélats français, qui ont essayé de trouver une sorte de troisième voie, si l'on veut, entre catholicisme et protestantisme. En effet, s'il semble tout à fait catholique au début, et il promulgue des statuts synodaux dès son arrivée en 1558, qui semble être dans le droit fil de ceux de son oncle, eh bien, peu à peu vont se faire jour des signes qui montrent qu'il cherche à trouver une espèce de catholicisme épuré qu'on pourrait concilier avec les exigences des protestants. Il va notamment éditer un catéchisme, l'un des premiers catéchismes français, en 1564, qui va être censuré d'ailleurs par la faculté de théologie de Paris, et qui est un texte très curieux, puisqu'effectivement, il fait l'impasse sur un certain nombre de points qui posent problème, en particulier l'Eucharistie, et accorde un certain nombre de concessions aux protestants. Mais en réalité, c'est une initiative qui n'a que très peu de soutien à l'intérieur de Chartres, puisque le clergé de la ville reste très majoritairement fermement catholique. Le chapitre, autrement dit les chanoines, constitue un ferme contre-pouvoir qui n'ont qu'une envie de cette troisième voie que cherche à promouvoir l'évêque. Et en réalité, les choses vont mal se terminer pour cet évêque, puisqu'il va être jugé à Rome, condamné. Pour lui, il n'y a aucune... Cette condamnation va rester toute théorique, mais à la fin, il aura de telles difficultés avec ses paroissiens qu'il va être obligé de s'enfuir peu après la Saint-Barthélemy, sous les pierres des Chartrains. Et sa tentative assez intéressante d'une troisième voie va faire long feu.
Donc il paraît qu'il n'y avait pas à Chartres aucune persécution liée à la Saint-Barthélemy.
Non, effectivement, Chartres fait partie de ces villes où il n'y a pas eu de massacre. Il n'y a pas eu de massacre pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait déjà assez peu de réformés à Chartres à cette époque-là, que les catholiques du même coup ne se sentaient pas très menacés, et enfin que les pouvoirs municipaux contrôlaient vraiment bien leur monde. Et comme ils avaient reçu des lettres leur enjoignant de ne pas laisser se produire de tels actes, ils ont fait en sorte d'y obéir.
Donc le siège des Huguenots avant Chartres, en 68, il ne pouvait qu'échouer, finalement, parce qu'il n'y avait pas de traîtres à l'intérieur de la ville qui auraient pu ouvrir des portes. Et puis il y avait une protection mariale,
oui,
la Carnutum Tutela, que les Chartrains connaissent bien, avec Notre-Dame de la Brèche. Donc le siège, pour vous, c'est un événement qui fait partie de ces 8 guerres de religion, mais qui ne pouvait pas effectivement mettre en danger cette citadelle qu'était Chartres à cette époque-là. Alors on va peut-être continuer notre très intéressante histoire du protestantisme à Chartres après une autre petite pause musicale. Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous sommes avec Nicolas Balsamo et nous sommes en train de parler du protestantisme dans la belle ville de Chartres au XVIe siècle. Nicolas Balsamo est actuellement doctorant en histoire de l'école pratique des hautes études à Paris. Il vient de publier un livre sur un journal tenu par Jean Bouvard, bourgeois chartrain au XVIe siècle. Livre très intéressant pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire du XVIe siècle et Il a rédigé un mémoire de maîtrise justement aussi sur le protestantisme à Chartres. Donc qui mieux que lui pourrait donc nous parler des guerres de religion et surtout nous expliquer comment cela se fait-il que Chartres ait pu résister à l'assaut des protestants qui forment donc au début du XVIe siècle déjà une petite communauté assez importante néanmoins et avec beaucoup d'influence.
Plus influente qu'importante numériquement, on va dire. Parce que on n'a pas de chiffres précis, évidemment, mais il est peu probable que les protestants aient représenté plus de 10% de la population chartraine. En réalité, même probablement beaucoup moins. Mais influente parce qu'un certain nombre de magistrats importants, et en particulier, comme on disait tout à l'heure, les frères de Héroard, quasiment les premiers magistrats de la ville, ont adhéré à la réforme. Et en effet, il y a eu un petit moment de flottement à la fin de l'année 1561 et au début de l'année 1562, donc à la veille vraiment des guerres de religion, où on a cru que les choses auraient pu basculer parce que ont eu lieu plusieurs prêches quasiment publiques, officielles à l'intérieur de la ville, où les protestants chartrains ont été rejoints par un certain nombre de nobles venus de la campagne, et qui dit nobles dit à l'époque des gens qui savent se battre. Et à la limite, s'ils ne sont pas très nombreux, ils sont bien armés, leur métier c'est combattre, et ils peuvent suppléer leur petit nombre par leur détermination. Pourtant, cela n'a pas eu lieu, et assez rapidement, la riposte catholique s'est organisée, les assemblées protestantes ont dû prendre fin, et finalement, le pasteur chartrain a été emprisonné pendant quelques mois, et dès que les guerres de religion proprement dites ont commencé, en mars 1562, les protestants de la ville ont tout simplement été expulsés. Et à partir de là, on peut dire que, environ 160 personnes ont été expulsées, et à partir de là, on peut dire que la réforme à Chartres a perdu la partie, elle ne sera plus jamais qu'une petite minorité. Alors pourquoi ? Parce que finalement, en histoire, bon, les choses auraient pu se passer autrement. Il faut penser que, d'abord, c'est la situation géographique. Chartres est un peu excentré, et puis c'est toujours un peu le même problème que nous connaissons bien aujourd'hui. Chartres n'est pas assez près de Paris pour profiter de l'aura parisienne, et en même temps pas assez loin pour constituer, comme Bourges, Orléans ou Tours, un centre autonome. Du même coup, il n'y a pas à Chartres, il n'y a pas à l'époque d'université à Chartres, il n'y a pas de parlement à Chartres, et du coup... comme on a constaté ailleurs que souvent université et parlement sont vraiment des lieux où la réforme va se diffuser ou à partir desquels elle va rayonner, eh bien à Chartres, comme il n'y a pas de milieu social suffisamment important pour servir de terreau, du coup la réforme ne va pas réussir à bien s'implanter. Autre chose, c'est probablement aussi une question d'individu. Peut-être que vraiment pendant les journées cruciales de décembre 1561, les chefs protestants n'ont pas eu l'audace qu'ils auraient pu avoir et qu'ils ont eu ailleurs parfois, car il y a eu des villes comme Orléans, par exemple, qui sont tombées aux mains des protestants, alors que les protestants étaient minoritaires à Orléans. Souvent, en politique...
C'était l'enjeu qui déterminait effectivement l'énergie avec laquelle on combattait.
L'enjeu, l'audace de quelques individus. Alors qu'en face d'eux, ils ont trouvé des catholiques qui étaient vraiment décidés à ne pas se laisser faire et qui ont su assez rapidement riposter. Enfin... On peut aussi... il y a un troisième facteur auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, il peut paraître un peu... pas très important, mais qui en fait l'est véritablement, c'est l'importance du culte marial. À l'époque, Chartres, c'est un grand centre de pèlerinage, qui possède une relique réputée de la Vierge, et une ville qui est très très fière de ce statut de ville sainte. Elle en est d'autant plus fière qu'elle n'a à cette époque-là pas grand-chose d'autre à faire valoir. Chartres n'est pas un grand centre économique, ce n'est pas un centre politique, ce n'est pas un centre intellectuel. Par contre, c'est vraiment un important centre religieux. Alors du même coup, il ne faut pas oublier que le protestantisme, lui, est particulièrement hostile à la fois au pèlerinage, aux reliques et au culte de la Vierge. Alors, de ce point de vue-là, pour beaucoup de Chartrains, la réforme, c'était non seulement quelque chose qui leur était étranger, mais c'était surtout quelque chose qu'ils ressentaient comme une atteinte à leur fierté urbaine, à leur sentiment de communauté. Et de ce point de vue-là, il y avait peu de chances que la réforme parvienne à recruter beaucoup d'adeptes à Chartres.
Donc effectivement, le voile, c'est cette relique qui attirait beaucoup de pèlerins, encore donc au XVIe siècle. Et effectivement, quel autre attrait aurait pu offrir la ville de Chartres si la ville avait basculé dans le protestantisme, si on avait purgé la cathédrale de tout ce qui faisait, comme vous dites, la fierté, et la raison d'être de la ville aurait effectivement disparu avec l'installation d'un culte étranger à la vénération de la Vierge. Donc le culte marial, comme vous dites, contribue à la défense de la ville. Et néanmoins, Henri IV va pouvoir être sacré roi dans la cathédrale de Chartres. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous voulez nous en parler un tout petit peu? On sait que la cathédrale a été aménagée à l'intérieur pour le sacre. Il y avait le jubé du Moyen-Âge qui a été aménagé afin d'y poser le trône d'Henri de Navarre.
Oui, c'est-à-dire que surtout, il a finalement été content d'être sacré malgré tout, mais il aurait préféré l'être là où l'avaient été tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire à Reims. Chartres-aux-Frais était un choix commode pour plusieurs raisons. C'est une cité quand même pas trop éloignée de Paris, que Henri IV contrôlait surtout, après l'avoir prise grâce à un siège en règle. Et enfin, une cité dont l'évêque, Nicolas de Thou, était l'un de ceux qu'on appelait les politiques à l'époque. En effet, il y avait plusieurs camps. Il y avait les protestants, il y avait les ligueurs, les catholiques exclusivistes, qui étaient totalement opposés à ce qu'un protestant ou un ancien protestant monte sur le trône de France.
C'est eux qui tenaient Reims, justement.
Et qui tenaient Reims, oui. Et il y avait ceux qu'on appelait les politiques, qui étaient des catholiques, on dirait aujourd'hui modérés peut-être, qui étaient prêts, pour le salut de l'État, à faire quelques concessions. Et Nicolas de Thou était justement l'un de ces modérés, et qui, du même coup, a permis à Henri IV de trouver une ville de remplacement pour le sacre. Même si il n'est pas sûr qu'encore à cette époque-là, les suffrages, par exemple, des Chartrains se seraient portés sur Henri IV, car ils n'avaient pas oublié le siège relativement rude auquel ils avaient été soumis par le roi. Et nous avons conservé pour cette époque un autre témoignage assez fascinant, un ecclésiastique chartrain qui a lui aussi tenu un journal et qui lui était un ligueur absolument jusqu'au boutiste, et il dit pique-pendre d'Henri IV. Donc les choses n'étaient pas encore tout à fait gagnées.
Et en plus qu'Henri IV n'en était pas à sa première abjuration, je crois qu'il a changé de religion 6, 7, 8 fois. Donc peut-être on ne lui faisait pas confiance à 100%. Est-ce que vous voulez peut-être faire une petite conclusion, parce que nous sommes passés déjà très vite à la fin de notre émission que nous a permis, chers auditeurs, grâce à Nicolas Balsamo, de parler du protestantisme dans la belle ville de Chartres au XVIe siècle. Nous vous remercions beaucoup, cher Nicolas Balsamo, de nous avoir fait comprendre pourquoi Chartres a pu garder la religion catholique, rester la citadelle du catholicisme. Et nous aurons sans doute l'occasion de faire d'autres émissions pour approfondir le sujet que vous connaissez très bien. Donc, merci beaucoup, Nicolas Balsamo. À très bientôt.